Chapitre 24. Aucune organisation terroriste n'a encore revendiqué l'assassinat, mais les analystes de la CEPO n'y voient rien d'étrange compte tenu du caractère particulier du crime. Le but de ceux qui tuent un ministre des Affaires étrangères n'est pas de terroriser la population, mais de faire peur à un petit groupe de politiciens haut placés. Pendant la journée du dimanche, les agents de la CEPO continuent à évaluer les nombreuses données techniques du rapport de la police scientifique et les plus de 10 000 résultats d'analyse de laboratoire. Tout confirme l'image d'un criminel on ne peut plus professionnel. Il n'a laissé aucune empreinte digitale, aucune trace biologique, il n'a abandonné aucune balle sur les lieux, aucune douille, et il est invisible sur les vidéos des caméras de surveillance. On a réussi à prélever plusieurs empreintes de ses chaussures, mais elles sont d'un type vendu dans le monde entier, et l'analyse des particules laissées par les semelles n'a rien donné. Saga Bauer se trouve avec le chargé des opérations spéciales, Janus Mikkelsen, et son cercle rapproché dans une des salles de réunion au dernier étage du siège de la CEPO, à Solna. Janus porte un t-shirt à motif batik vert pâle. Ses sourcils clairs semblent prendre la teinte rosée de sa peau quand il s'engage à fond. La sécurité autour des principaux bâtiments officiels a évidemment été renforcée et le nombre de gardes du corps qui accompagnent les personnalités de premier plan a été considérablement augmenté, mais on sait que cela ne sera pas suffisant. Le stress dans la pièce est à son comble. Salim Rajen a immédiatement été mis à l'isolement dans le pénitencier de Halle en vue de son transfèrement à Kumla. Personne n'ose réellement croire que cette mesure va empêcher d'autres meurtres. Car même si l'homme est dans l'incapacité de donner de nouveaux ordres, les 3 premiers attentats peuvent très bien être déjà programmés. En ce moment, la CEPO met tout son espoir dans l'infiltration de Juna à la prison. S'il échoue, il ne leur restera plus qu'à attendre et à voir ce qui se passera mercredi.
Nous avons affaire à un criminel extrêmement bien organisé. Il ne commet aucune erreur, il ne s'emporte pas, il n'a pas peur, dit un des participants à la réunion.
Dans ce cas, il n'aurait pas dû laisser un témoin, réplique Saga.
Ou alors c'est juste un macro qui a trouvé que le ministre est allé trop loin cette fois, sourit Janus, et il souffle pour écarter quelques boucles rousses de son visage.
Jeannette et Saga ont mené 3 autres interrogatoires avec le témoin sans rien obtenir de nouveau. Sofia Stefansson s'en tient à son histoire et rien n'indique qu'elle mentirait, mais d'un autre côté, la CEPO n'a pas pu établir avec certitude qu'elle était réellement une prostituée. Si personne dans ce secteur d'activité ne connaît Sofia, les techniciens ont cependant réussi au cours de la journée à localiser Tamara Jensen, qui semble être la seule personne en mesure de confirmer le parcours du témoin. Son nom se trouvait dans le téléphone portable de Sofia, parmi ses contacts, et ils ont pu géolocaliser son mobile via 3 antennes relais. Tamara évolue dans un petit périmètre au sud-ouest de Nyköping. Elle n'est pas mariée et elle n'a pas déménagé à Göteborg, contrairement aux affirmations de Sofia. Son annonce figure toujours sur un site qui propose un service d'escorte haut de gamme dans la région de Stockholm. La photographie montre une femme d'environ 25 ans, aux yeux pétillants et aux cheveux relevés, en une coiffure élégante. Dans sa présentation, elle promet un accompagnement cultivé lors de soirées ou de voyages, pour une nuit ou le temps d'un week-end. Saga Bauer lit la description de l'itinéraire pendant que Jeannette Fleming pilote la BMW gris sombre à 140 km à l'heure. Aussi différente soit-elle, à la fois physiquement et psychologiquement, elles s'entendent très bien. Jeannette a mis sa frange sur le côté, maintenue par une barrette en argent mat. Elle porte une jupe gris clair et une veste de tailleur blanche, un collant fin et des escarpins à talons mi-haut. Elle bavarde en mangeant des bonbons à la réglisse piochés dans un sachet placé dans le vide-poche central. Saga raconte que son ex-copain Stéphane lui a envoyé des textos alcoolisés de Copenhague la veille. Il voulait qu'elle vienne le rejoindre à son hôtel.
« Pourquoi pas ?» commande Jeannette et elle prend un autre bonbon à la réglisse.
Saga rit et regarde pensivement les bâtiments industriels qui défilent de l'autre côté de la vitre.
« C'est un crétin, je ne comprends pas pourquoi j'ai accepté de continuer à coucher avec lui, » avoue-t-elle à voix basse.
« Enfin sérieusement, » poursuit Jeannette en tambourinant un peu avec la main sur le volant.
« Pourquoi s'encombrer de principes? Tu n'as qu'une vie, c'est la tienne, et tu es seule. Saga sourit. C'est ton conseil de psychologue?
Je pense, ouais.
La soirée est bien avancée lorsqu'elles arrivent à Nykøbingsbroen, un restaurant ouvert 24 heures sur 24 qui forme un pont au-dessus de l'autoroute. Jeanette fait le tour du parking jusqu'à ce qu'elle trouve la vieille Saab de Tamara. Elle se gare de manière à coincer la voiture, puis elles entrent dans le restaurant. Un homme passe à la caisse avec son plateau et se voit attribuer un ticket de stationnement pour la nuit. L'hôtesse lui crie de le placer bien en vue sur le pare-brise. Le restaurant est pratiquement vide. Saga et Jeanette circulent parmi les tables, mais Tamara n'est pas là. Elle passe devant une piscine à boules sans enfant. Les balles ternes reposent derrière une vitre tachée à côté d'un panneau vert avec des informations touristiques.
« Allons voir à l'extérieur, » dit Jeanette à voix basse.
Le parking est plongé dans la pénombre. Il fait frais et Saga ferme son blouson de cuir quand elle passe devant les bancs et les tables de pique-nique. Quelques pies sautillent parmi les poubelles qui débordent. Les deux femmes se dirigent vers l'aire de stationnement réservée aux camions quand un semi-remorque bleu s'engage devant elles. Le sol tremble sous son poids. Il tourne et s'arrête au bout de la rangée. 19 poids lourds sont garés de ce côté du pont. Derrière eux se dresse la forêt de sapins noirs et mystérieuse. Le vacarme de l'autoroute arrive par vagues, comme des rouleaux qui déferlent sur une plage. L'obscurité et une étrange chaleur règnent entre les véhicules, où l'odeur de fioul se mêle à celle d'urine et de fumée de cigarette. Le métal chaud des moteurs crépite. De l'eau sale goutte de la bâche d'un camion devant une paire de roues énormes. Un chauffeur lance un sac poubelle sous la remorque avant de grimper dans la cabine, puis il ferme la portière et branche le détecteur de gaz. Des cigarettes rougeoient ici et là dans la nuit. Saga et Jeanette poursuivent leur avancée entre les véhicules gigantesques. Le bitume est parsemé de taches d'huile et de détritus, boîtes de tabac sucées vides, sachets de chez Burger King, mégots et un magazine porno piétiné. Saga s'accroupit, jette un regard sous un dolly et voit des gens bouger entre les poids lourds. Quelqu'un urine contre un pneu, des conversations assourdies se devinent, un chien aboie derrière des portes closes. Un véhicule articulé couvert de saleté démarre à côté d'elle. Le moteur tourne à vide un instant pour faire monter la chaleur et la pression d'air. Les feux arrière éclairent un monceau d'ordures et de bouteilles vides à la lisière de la forêt. Saga se penche de nouveau pour regarder sous un châssis rouillé et voit une femme descendre d'une cabine. Ses jambes minces sont nettement visibles lorsqu'elle s'éloigne en chancelant sur des chaussures à plateau.